Chers amis, je ne sais pas où j'en suis. Je viens de constater que mon téléphone s'était coupé et j'ai dû relancer le direct. Excusez-moi si je ne l'ai pas vu. J'étais lancé dans mon message. Donc, ma question était celle-ci. Dieu pourra-t-il dire de vous, de moi, j'ai bien fait de te crier? Dieu aurait-il du regret de m'avoir crié? Plus, Dieu a-t-il du regret d'avoir crié Hitler, Mao, Napoléon, tous les petits tyrans qu'on rencontre dans le boulot, dans l'administration, dans la police, dans l'armée, dans les quartiers, toujours des gens qui cherchent à dominer et à mettre la peste. Dieu n'a pas de regret de les avoir mis au monde. Je résume ce que j'ai dit avant. Il est clair que Dieu a fixé un jour pour un jugement. Hébreux 9, 26, 27. Hébreux 9, 26, 27. Dieu a posé un jugement, un jour pour chacun de nous. Il est réservé à tout homme de vivre une seule fois. Je vais connecter mon téléphone il y a ça un quart d'heure, et puis je me suis rendu compte après l'ancien direct. Il y a quelque chose qui s'est passé, qui a coupé, j'avais parlé dans le vide, si vous voulez, à moins que certains l'aient entendu. D'autre part, il se coupe aussi, même que j'ai relancé le direct. Ce n'est pas facile, là où je suis, en Auvergne, pour avoir une bonne connexion. Veuillez me pardonner. Dieu pourra-t-il dire de vous, j'ai bien fait de te crier? Eh bien, je vais vous dire, Dieu n'a aucun regret de vous avoir crié, qui que ce soit, quels que soient les défauts de chacun de nous. Dieu, dans son amour humain, vous a mis, m'a mis sur terre pour être un partenaire de sa sainteté, de son amour, pour être son enfant, pour être participant à sa gloire et à sa vérité. Bon, le jour du jugement, bien sûr, personne ne pourra dire « Tu ne m'as pas parlé ». Tu ne m'as pas parlé, et bien sûr, je viens de lire le psaume 93, c'est un peu dommage que je doive retourner en arrière, vu que mon téléphone, la connexion s'est coupée, mais je vais reprendre. Psaume 93. L'Éternel règne, il est revêtu de majesté. Éternel est saint de force. Seigneur, je vous en prie. Seigneur, bénissez la connexion, qu'on ne soit pas coupé tout le temps. Ton trône est établi dès les temps anciens, tu existes de toute éternité. Les fleuves élèvent, ô Éternel, les fleuves élèvent leur voix, les fleuves élèvent leurs ondes retentissantes. Plus que la voix des grandes puissantes eaux, des flots impétueux de la mer, l'Éternel est puissant dans les lieux célestes. C'est un cœur ouvert à la contemplation sur la créature, sur la puissance du langage de Dieu à travers la création. Et clairement, au verset 5, tes témoignages sont entièrement véritables. La sainteté convient à ta maison, Éternel pour toute la durée des temps. Il confirme, c'est un acte de foi, il confirme l'expérience de ce que Dieu lui révèle. Et sa sainteté, sa souveraineté. Prenons Romains chapitre 1. Romains chapitre 1, verset 18. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété, toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Donc, s'il y a colère de Dieu, alors qu'il est bon, qu'il est juste et vrai, c'est que quelque part, le comportement des humains est anormal vis-à-vis de lui. Et une correction, non pas un rejet, une correction s'impose. Ils maintiennent injustement la vérité captive, car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, ça peut, je vous en prie. Sa divinité, sa personnalité se voit comme à l'œil nu depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables, car ayant connu Dieu, ils n'ont point glorifié comme Dieu et n'ont point rendu grâce. Il y a donc de la part de Dieu une expression de sa gloire à travers la création. Et dans beaucoup de peuples, on reconnaît la gloire de Dieu, ils vont vers Dieu à cause de la gloire de Dieu à travers la création, qui leur parle. Ici, en Europe, on a pris l'attitude cinglante, arrogante, de dire « la nature a bien fait les choses ». Voyez comme la nature a bien fait les choses. Regardez, c'est l'évolution, regardez, c'est normal, c'est magnifique. Quelle puissance il y a dans l'univers, quelle puissance! Et jusque-là, la New Age va dire, oui, la puissance de la nature, c'est Dieu. Gaïa, le terrestre est Dieu. On a adoré la créature plutôt que le créateur. Dans le panthéisme, c'est-à-dire, Dieu est dans la nature est Dieu. Et c'est Madame Blavatsky qui a fondé un mouvement anthroposophique et qu'on retrouve chez Steiner et d'autres et qui est en train d'empoisonner l'Occident avec toutes sortes de branches, bien sûr, en anthroposophie. Pourquoi est-ce que Dieu n'a pas de regret de me créer? D'abord, il m'a exprimé qu'il y avait un jugement un jour, que ma vie se termine, que vous rendrez compte. Deux, il m'a exprimé sa gloire. Et puis, et troisième point, je peux lui crier, je peux lui parler. Combien de fois j'ai été dans la nature, dans la forêt ou dans ma chambre, en parlant en voix haute ou à voix basse ou dans l'auto et en parlant à Dieu. Croyez-vous que c'est en vain? Croyez-vous que c'est stupide? Vous avez sans doute aussi fait l'expérience que quand vous avez parlé à Dieu, psaume 88. Psaume 88, parce que quand vous avez parlé à Dieu, il y a quelque chose qui s'est passé en vous et qui est normal. Vous avez été créé pour parler à Dieu même si vous ne le voyez pas. Vous avez appris à parler par vous-même de manière responsable à Dieu dans un chant. Je peux crier vers Dieu même si je n'ai pas appris à le connaître. Je peux crier vers Dieu même si je ne suis pas né dans une famille croyante. Et Dieu m'entend. Un jour, il me fera des signes. Nous y viendrons plus tard. Éternel, psaume 88, Dieu de mon salut, je crie jour et nuit devant toi. Que ma prière parvienne en ta présence, près de l'oreille à mes supplications. Car mon âme est rassasiée de maux, ma vie s'approche du séjour des morts. Je suis mis au rang de ceux qui descendent dans la fosse, aussi comme un homme qui n'a plus de force. Je suis étendu parmi les morts, semblable à ceux qui sont tués et couchés dans le sépulcre, à ceux dont tu n'as plus ta main. C'est sans doute une persécution qui est exercée ici sur David. Tu m'as jeté dans une fosse profonde, dans les ténèbres, dans les abîmes. Dépression, angoisse, trouble, réellement la peur de la mort. Ta fureur s'abesantit sur moi, tu m'accables. Évidemment, nous voyons là, au verset 8, psaume 88, verset 8, « Ta fureur s'appesantit sur moi, tu m'accables de tous tes flots », un esprit de culpabilité. Mais c'est un esprit de culpabilité venu de son cœur, de son âme. C'est pas par matraquage de ses parents, ou d'un pasteur, ou d'un prêtre, ou de la maman. Il sait que Dieu est en colère sur lui, il sait qu'il y a beaucoup de choses à mettre en ordre dans sa vie. Tu m'accables de tous les flots. Il est clair que si les flots submergent une maison, elle va l'arracher à la côte, elle va tomber dans la mer. Si les flots envahissent un bateau, il est coulé. Et l'être humain peut sentir la détresse, peut sentir qu'il n'est pas en ordre avec Dieu. C'est donc une expérience fondamentale de savoir jusqu'à quel point par notre comportement, nos choix, on s'est mis dans une situation totale de détresse. Et voici quelque chose de plus dur. Verset 9, « Tu as éloigné de moi mes amis, tu m'as rendu pour eux un objet d'horreur, je suis enfermé, je ne puis sortir. » Isolement total. Tout le monde l'a lâché. « Je suis enfermé, je ne puis sortir. » Mes yeux se consument dans la souffrance, je t'invoque tous les jours, Éternel. Regardez la persévérance des cris de David. J'étends vers toi les mains. Est-ce pour les morts que tu fais des miracles? Les morts se lèvent-ils pour te louer? Alors, déjà, il sait qu'il ne veut pas cette mort. Elle n'est pas une rupture avec Dieu. Elle n'est pas une rupture avec la vie. Il sait, il crie vers autre chose de plus fort que la mort. Parle-t-on de ta bonté dans le sépulcre, de ta fidélité dans l'abîme de perdition? Tes prodiges sont-ils connus dans les ténèbres, ta justice dans la terre? Ô Éternel, j'implore ton secours et le matin, ma prière se lève à toi. Voilà donc qu'il prend l'attitude de la persévérance, de la prière sans voir, de la prière sans issue, mais de la prière qui est entendue. Pourquoi, Éternel, reposes-tu mon âme? Pourquoi me caches-tu ta face? Je suis malheureux et moribond dès ma jeunesse. Je suis chargé de tes terreurs, je suis troublé. Tes fureurs passent sur moi, tes terreurs me réduisent au silence. Elles m'environnent tout le jour comme des eaux, m'enveloppent toutes à la fois. Tu as éloigné de moi amis et compagnons, mes intimes ont disparu. Chers amis, il faut savoir qu'il était persécuté et poursuivi par Saül et 4000 hommes. Et donc, il a été dans les grandes persécutions. Comme les chrétiens dans le communisme, dans les goulags, et comme beaucoup de chrétiens aujourd'hui encore dans des situations difficiles, qui sont semblables à celles de l'Empire romain au début de la chrétienté. Et Dieu a répondu, comme Jésus, qui a souffert sur la croix, qui a dit « Pourquoi, mon père, m'abandonnes-tu ?» En fait, Dieu a démontré qu'il n'avait pas abandonné en le ressuscitant. La résurrection de Christ est le témoignage que Dieu n'est pas un lâcheur. La résurrection de Christ est le témoignage de la fidélité de Dieu. Et c'est pour ça que Jésus dit « Heureux ceux qui croient sans avoir vu ». Croyez à la résurrection. Croyez à la puissance de Dieu sur tous les mauvais jours de cette vie sur terre. Croyez à la puissance de sa gloire. Vous pouvez crier à Dieu. Vous pouvez lui crier. Psaume 61. Psaume 61. Ô Dieu, écoute mes cris, sois attentif à ma prière. Debout de la terre, je crie à toi, le cœur abattu. Conduis-moi sur le rocher que je ne puis atteindre. Conduis-moi en Christ. Conduis-moi dans la vie divine. Car tu es pour moi un refuge, une tour forte en face de l'ennemi. Je voudrais séjourner éternellement dans ta tente, me réfugier à l'abri de tes ailes. Voici donc le soupir de l'âme de celui qui cherche Dieu, sans le voir. Car toi, ô Dieu, tu exauces mes vœux, tu me donnes l'héritage de ceux qui craignent ton nom. Et voilà, je chanterai sans cesse ton nom en accomplissant chaque jour mes vœux. Il y a de la part de cet être humain qui parle, David, évidemment, psaume 61, un attachement amoureux à Dieu, un attachement fidèle. Et même s'il ne voit pas toujours l'œuvre de Dieu, il croit en l'œuvre de Dieu. Et clairement, il sera délivré, il sera béni. Prenez le psaume 116, chers amis, et regardez bien. Oui, un homme de toute nation, de n'importe quelle race, qui soit athée ou croyant, de n'importe quelle, peut dire ceci, « J'aime l'Éternel, car il entend ma voix et mes supplications. Il a penché son oreille vers moi, et je l'invoquerai toute ma vie. » Oui, il est clair que celui qui s'adresse à Dieu fait l'expérience que Dieu est là. Tôt ou tard, Dieu le bénira. Dieu le bénira. Et bien sûr, un peu plus loin, il dit ceci, au verset 5, « L'Éternel est miséricordieux et juste, notre Dieu est plein de compassion. L'Éternel garde les simples. J'étais malheureux, il m'a sauvé. Mon âme retourne à ton repos, car l'Éternel t'a fait du bien. Oui, tu as délivré mon âme de la mort, mes yeux des larmes et pieds de la chute. Je marcherai devant l'Éternel sur la terre des vivants. J'avais confiance lorsque je disais « Je suis bien malheureux ». Je disais dans mon angoisse tout au mes trompeurs, comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? Ce sont des bienfaits spirituels, relationnels. Ce sont des bienfaits de connexion, de communication entre Dieu et David qui se sont établis. Et donc, David le reconnaît. C'est l'œuvre de la foi de Dieu, la foi donnée par Dieu à David. C'est pour ça que Paul dit dans Éphésiens, chapitre 2, verset 8, que la foi est un don de Dieu, afin que nul de nous ne se glorifie. Ce don de Dieu de la foi, en Éphésiens 2, 8, afin que nul ne se glorifie, est gratuit. Dieu engendre en nous la foi. C'est une grâce, la foi. Et il est clair que là, on reçoit ce qu'on a demandé. Donc, nous avons quand même, en nous, être humain, être spirituel, un esprit, une âme qui peut s'adresser au Dieu invisible pour recevoir cette foi intègre, noble, belle, qui ne repose pas sur notre « je », qui est une grâce, afin que ensuite nous fassions les œuvres préparées d'avance par Dieu pour le glorifier. Prenons maintenant le psaume 84. Pourquoi? Parce que, oui, j'ai le choix de l'intégrité. J'ai le choix de l'intégrité et de la bénédiction qui s'ensuit. Je ne recherche pas d'abord la bénédiction, j'ai le choix de la vérité. Ensuite vient la bénédiction. Psaume 84. Que tes demeures sont aimables, Éternel des armées. Psaume 84. Mon âme soupire et languit après les parvis de l'Éternel. Mon cœur et ma chair poussent des cris vers le Dieu vivant. Le passereau même trouve une maison, l'hirondelle un nid où elle dépose ses petits. Ainsi tes autels, Éternel, divin au ciel, Éternel des armées, mon roi, mon Dieu, sont mon bien. Heureux ceux qui habitent ta maison, ils peuvent se célébrer encore. Heureux ceux qui placent en toi leur appui, ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. À quel point l'expérience divine de la vraie foi peut être possible? Toi qui es notre bouclier, vois, ô Dieu, regarde la face de ton oint. Mieux vaut un jour dans tes parvis que mille ailleurs. Je préfère me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu plutôt que d'habiter sur le... Je préfère me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu. Donc, le seuil de la vérité, de la sainteté. Je préfère entrer dans la vie divine de la vérité, de la sainteté, de la noblesse divine, et plutôt que d'habiter sous les tentes de la méchanceté. Car l'Éternel est un soleil, un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Éternel des armées, heureux l'homme qui se confie en toi. Mais David n'a jamais été obligé de parler ainsi, chers amis. Jamais. Personne, il n'avait pas une mitraillette dans le dos. L'œuvre de la foi et la recherche de l'intégrité et de la vérité connaissent une réponse. C'est pour ça que j'encourage tout incroyant, toute personne qui ne connaît pas encore l'œuvre de Dieu, à parler à Dieu. Il faut parler à Dieu. Dieu n'a pas de regret de nous avoir créés. Pourquoi? Parce qu'il met devant nous toutes sortes de possibilités pour le connaître. Il a mis la référence d'Israël, l'histoire du peuple d'Israël, ses miracles, ses prophètes, l'authenticité de sa Bible, les fouilles archéologiques, historiques, qui prouvent la véracité de la Bible, et toutes les prophéties actuellement qui sont en cours, les dernières qui sont en cours avant la venue de Jésus. Tout cela est une référence majeure pour celui qui cherche. Même un athée peut lire la Bible et rechercher les fondements éternels de la création. Donc, la référence d'Israël est une référence majeure pour trouver Dieu. Celui qui méprise Israël va bien se créer des mots inutiles. Je ne parle pas de la politique des soldats israéliens. Alors, pourquoi Dieu m'accuserait? Pourquoi il aurait du regret de me juger et quand je viens? Il n'a pas de regret, parce qu'il m'a parlé. Il m'a parlé, il me parle, il me donne la possibilité de l'intégrité, il me donne la possibilité, le choix du bon chemin. J'ai reçu une conscience. Et cette conscience, comme vous, comme la mienne, elle est majeure dans notre vie. Si nous piétinons notre conscience, c'est que nous le voulons bien. C'est que nous le voulons bien, par désinvolture, par lâcheté, par opportunisme, par nous n'avons pas à avoir peur, nous sommes une création merveilleuse, nous avons reçu une conscience. Voici ce que Paul dit dans Romains, chapitre 2, verset 13, « Ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi de Moïse, d'Abraham, qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés. Quand les païens, donc ceux qui n'ont pas la Bible, la Torah, la révélation d'Israël, quand les païens qui n'ont pas la loi font naturellement ce que prescrit la loi, ce que je vous dis, ils vont naturellement vers cette loi. Une loi pour eux-mêmes. Ils ont une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur conscience. En rendant témoignage, leurs pensées s'accusent tour à tour pour le bien et le mal. Et c'est ce qui paraîtra au jour où, selon l'évangile de Christ, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. Donc ici, nous sommes au fond sur le terrain des actions secrètes, du fort intérieur, de l'âme. Et tout homme a reçu une âme. Il n'y a pas de descendant de singe. Ça n'existe pas. L'être humain est un être corporel et spirituel. Et il est muni d'un esprit, ou par son corps, il a un esprit. Cet esprit est alimenté par l'esprit divin. L'âme est plus profonde, le moi, le je, l'intériorité, qui ne finira jamais, qui est immortel, doit connaître un jour cette œuvre. Cette œuvre de l'Esprit Saint, qui est dans la nature, dans la création, qui est puissante, peut parler à l'esprit de l'homme. L'esprit de l'homme, c'est comme l'antenne de radio qui capte les émissions. Dieu est esprit. Il veut, par l'esprit de l'homme, parler au fond intérieur, qui ne mourra jamais, l'âme. Il veut amener l'âme à Dieu. Et le moyen, c'est l'esprit. Alors, faites-vous honneur à votre esprit, ou l'endormez-vous par la télévision, par Internet, par toutes sortes de gags, par de la négligence, par de l'affairisme, par la folie du monde. Votre esprit doit chercher la bénédiction. Quand Paul écrit ses épîtres, il dit toujours que la grâce de Dieu et la paix de Jésus-Christ soit sur votre esprit. Il finit souvent ses épîtres, mais il les commence aussi ainsi, que Dieu notre Père, par son Fils Jésus-Christ, dans sa grâce, nous bénisse, donne paix, justice, amour, et bénisse notre esprit. Regardez bien, c'est fondamental. L'esprit est donné pour recevoir les messages divins, ensuite pour analyser, pour accepter, pour choisir, pour se décider. Ensuite, l'âme se nourrit de ce que l'Esprit Saint a dit par notre esprit. Et le corps en est bénéficiaire aussi. Prenons maintenant Job, il y a 42 siècles, au chapitre 33. Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes. Job, chapitre 33, verset 14 et suivant. Quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche, il leur donne des avertissements et met le soin à ses instructions, afin de détourner l'homme du mal et le préserver de son orgueil, afin de garantir son âme de la fosse et sa vie des coups du glaive, des bagarres, de la guerre, etc. Par la douleur, ou si l'homme est repris sur sa couche. Deuxième façon de parler. Une lutte continue vient agiter ses os. Alors il prend des goûts le pain, anorexie, même les aliments les plus exquis. Sa chair se consume et disparaît. Ses os qu'on ne voyait pas sont mis à nu. Son âme s'approche de la fosse et sa vie des messagers de la mort. Dépression grave, etc., maladie grave. Mais s'il se trouve pour Job 33, 23, s'il se trouve pour lui un ange intercesseur un d'entre les mille qui annonce à l'homme la voie qu'il doit suivre. Dieu a compassion de lui et dit à l'ange, délivre-le afin qu'il ne descende pas dans la fosse, j'ai trouvé une rançon. Le sacrifice de Christ, 42 siècles avant nous, 21 siècles avant Jésus. La rançon est trouvée, elle est éternelle. Et vous savez, ce texte, on le trouve dans le livre des morts de moines tibétains, qui est plus ancien que le livre des moines tibétains. Si donc Dieu a parlé à Job de cette manière et à Abraham, si Dieu a dit il y a une rançon pour ton péché, pour te sauver, il a parlé aussi de la résurrection. Père a plus de fraîcheur qu'au premier âge, il revient un jour de sa jeunesse, il adresse à Dieu sa prière et Dieu lui est propice, donc sans colère, lui laisse voir sa face avec joie et lui rend son innocence. Vous voyez la joie de Dieu de retrouver l'homme, pécheur, pardonné, innocenté, à cause de la rançon. Il chante devant les hommes et dit « J'ai péché, j'ai fait l'injustice, je n'ai pas été puni comme je le méritais. Dieu a délivré mon âme pour qu'elle n'entre pas dans la fosse et ma vie s'épanouit à la lumière. » De Christ, évidemment. Voilà tout ce que Dieu fait deux fois, trois fois avec l'homme pour ramener son âme de la fosse pour l'éclairer de la lumière des vivants. De Christ, évidemment. Sois attentif, Job, écoute-moi, tais-toi, je parlerai. Vous voyez à quel point Dieu a déjà révélé. Et ce n'est pas par hasard quand dans le livre des morts des Tibétains, on trouve ce texte. Dieu sait ce qu'il fait. Dieu a permis cela. Chers amis, Dieu parle. Dieu parle de manière souveraine. Ne dites jamais. Alors, je vous lis dans Job, chapitre 19, verset 23. Oh, je voudrais que mes paroles soient écrites, qu'elles soient écrites dans un livre. Je voudrais qu'avec un burin de fer et avec du plomb, elles soient pour toujours gravées dans le roc. Je sais que mon Rédempteur est vivant, qu'il se lèvera. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Alors, après que ma peau aura été détruite, moi-même je contemplerai Dieu. Je le verrai, il me sera favorable. Mes yeux le verront et non ceux d'un autre. Mon âme languit d'attente au-dedans de moi. Vous dire alors pourquoi le poursuivions-nous? Vous voyez bien, chers amis, que Dieu s'est révélé, que Dieu a parlé et qu'il parle toujours. Il parle toujours. Prenons Hébreux chapitre 1. Chapitre 1. Après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils. Il l'a établi héritier de toutes choses. Par lui, il a aussi créé l'univers. Le Fils est l'image de sa gloire, l'image de sa personne. Il soutient toutes choses par sa parole puissante. Péché, il s'est assis à droite de la majesté divine, dans les lieux très hauts. Nous sommes assurés par Jésus-Christ d'avoir une purification complète de notre nature dévoyée, perdue. La révélation nous dit ce bienfait de Christ. La révélation peut se trouver dans la Bible. Elle peut se trouver sur Internet, sur YouTube. Elle peut se trouver sur toutes sortes de messages Internet aujourd'hui. Elle peut se trouver dans des librairies. La révélation peut se trouver dans des églises. La révélation est toujours partout. En plus, l'Esprit Saint appuie sur la révélation divine. Parle, en plus que la conscience parle, en plus. Puisque mes cris sont entendus et que Dieu m'adresse des songes, des douleurs qui me parlent, eh bien, je ne peux pas dire que Dieu m'a laissé en plan, m'a abandonné, et que quand je serai devant lui, je ne suis pas responsable de. Quelle est l'autre façon de voir que Dieu me parle et que s'il me parle, c'est qu'il m'aime et qu'il a bien fait de me crier? Quelle est l'autre façon? Un, l'amour de Christ. Il a lavé les pieds de ses disciples, il a aimé jusqu'au bout, il n'a commis aucun péché. Il est mort par amour pour eux sur la croix. Jean 17, 1, il a mis le comble à son amour, puis il leur lave les pieds. Heureux si vous faites la même chose que moi. Heureux êtes-vous si vous êtes mes disciples de cette manière. Jean 13. Donc, une autre révélation de Dieu en moi. Eh bien, c'est quand moi je me donne et que je me laisse aller à la compassion, à l'amour, que je me laisse aller à la vérité. En moi, une grâce s'établit et est agissante. Si je l'écoute et je la laisse m'envahir, cette grâce montre bien que je suis une créature précieuse à ses yeux. Mais cette façon de ressentir la qualité de la vie divine en nous, la qualité de la vie du Saint-Esprit en nous, cette façon nous montre bien que Dieu ne regrettera jamais de m'avoir créé. Il tend toujours la perche. Dieu tend toujours la perche. Dieu tend toujours la main aux hommes. Dieu a toujours un moyen de me parler. Le croyez-vous? Le croyez-vous, mes chers amis? Dieu a toujours une capacité au-delà de mes moyens de me parler. Parce que Dieu ne veut pas dire « Je n'ai pas voulu te créer. » Rater tout avec toi. Dieu ne veut pas dire « J'aurais pas dû te créer. » Il n'a jamais pensé ça. Donc, chers amis, si vous pensez quelque chose de néfaste à votre égard, vous pensez que votre vie n'en vaut pas la peine, n'écoutez pas cette voix. N'écoutez pas cette voix. Alors que le papa de David disait de David que c'était un pou, une puce, alors que ses frères le méprisaient, quelle est l'expérience de David? Psaume 139. Père, je te loue car je suis une créature merveilleuse à tes yeux. Tu me connaissais avant qu'aucun jour tu connaissais toutes mes pensées, avant qu'elles soient sur mes lèvres. Alors que j'étais qu'une masse informe, tu me connaissais, tu me tenais dans tes mains, par-dessus, par-en-dessous, par-devant, par-derrière. Quelle pensée merveilleuse, Seigneur! Où fuirais-je loin de toi, Seigneur? Où fuirais-je, Seigneur, loin de toi? Lisez ce psaume 139 et dites-vous bien ceci. Dieu vous dit, tu ne peux pas fuir, je suis toujours là et je t'aime. C'est toi qui te monte la tête, c'est toi qui te complique l'esprit, c'est toi qui es en train de te faire du mal. Écoute-moi, dans mon amour, je veux te parler. Demeure dans mon amour, regarde Jésus, regarde toutes les manifestations, les signes que je fais dans ta vie. Et tu ne pourras jamais dire, où tu vas me juger et me rejeter. Parce que Père, je sais que tu m'aimes. Oui, Dieu ne regrettera jamais de vous avoir mis au monde, de vous avoir mis sur la terre. Ne regardez pas vos défauts. Regardez à l'amour infini et tout-puissant de Dieu. Regardez à celui. Je vous laisse donc, mes amis, avec ce sujet là, très important. Cherchez une relation vivante avec l'Éternel, avec Dieu. Ne restez pas à des croyances reçues de papa et de maman. N'en restez pas à des croyances rituel d'une institution. Cherchez votre relation. Dieu vous tend la main. Allez-vous lui tendre la main, chers amis. Voilà, si la connexion n'est pas facile, sachez toujours bien que je vous aime et que je manifesterai toujours de la persévérance par amour pour Dieu et pour vous. Donc nous sommes mercredi à vendredi. Vendredi, je ne sais pas où nous serons. Ce n'est pas facile de le dire. Est-ce que nous serons arrivés à Ussel? Est-ce que je pourrais faire... À Ussel, il y a une communauté chrétienne là-bas, une église évangélique qui fait beaucoup, beaucoup d'imprimeries, qui diffuse beaucoup de bibles, de calendriers, de choses pour l'Afrique, qui fait des expos bibles, qui témoigne beaucoup. Ce sont de grands amis, nous y allons et je prêche dimanche et puis lundi je tiens l'expo Bible avec eux à Mont-d'Or.